ça m'arrive, je suis chez moi, je me lève la nuit parce que soit ma fille s'est réveillée ou quoi, bah des fois je vois des choses, je vois des personnes qui sont chez moi, qui déambulent, et je me dis mais sur le coup t'as peur parce que tu te dis est-ce que c'est quelqu'un de réel, d'incarné ou pas. Donc oui, ça m'arrive d'avoir peur. Après, moi ce que j'ai appris en fait que la peur elle fait partie du cheminement. Moi, à chaque fois que ça m'a appelé, j'ai eu peur, mais en même temps, cette peur, elle a fait que je suis sortie de cette zone de confort, de me dire, là, il faut que j'y aille, cette voix, elle m'appelle. Les premiers contacts avec des défunts, j'avais peur, mais il fallait que j'y aille. Et la peur, ça me bouscule et ça me permet d'avancer. Donc, j'ai envie de te dire, t'apprends à vivre avec, quoi.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview d'une médium. Cette médium, en l'occurrence, c'est Sarah Pérez. Et elle se présente avant tout comme cartomancienne. Alors dans cet entretien, Sarah nous ouvre avec beaucoup de transparence les portes de son monde, de sa médiumnité. Et je remercie très sincèrement Sarah pour ce témoignage tout en douceur et en authenticité. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute. Sarah, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Et pour commencer, et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ?
Déjà, bonjour à toi et merci de m'avoir invité. La présentation, c'est toujours délicat pour moi, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je me définis en tant que médium cartomancienne. Donc, j'ai les facultés d'un médium, donc de connexion avec les défunts, de pouvoir communiquer avec eux, mais je le mets pas en pratique en tant que médium pur, dans le sens où je fais pas de contact défunt à proprement dit. Moi, j'utilise ça dans mes guidances que je fais justement avec les cartes en cartomancie. Donc je tire les cartes pour aider les gens à se libérer de blocages et avancer dans des périodes charnières de leur vie.
Cette médiumnité, c'est un état que tu vis depuis toute petite ou c'est quelque chose qui est apparu sur le tard ?
Pour moi, je l'ai depuis toute petite. Après, les souvenirs que j'en ai, ils sont plus... J'ai pas de souvenirs... Enfin, j'ai des bribes de souvenirs quand j'étais vraiment enfant, à moins de 5 ans. Mais les premiers défunts dont je me souviens encore, c'est plutôt vers l'âge de 15 ans. Où j'ai vu une voisine, on avait été à son enterrement peut-être la veille ou 2 jours avant. Et je l'ai vue sur son palier d'immeuble, en fait, vers les boîtes aux lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Hier ou avant-hier, on est allé à son enterrement. Et c'est à partir de là vraiment que ça s'est ouvert, on peut dire ça comme ça.
D'accord. Ça veut dire que tu vois les manifestations de l'invisible. Est-ce que donc c'est la clairvoyance, mais il y a aussi d'autres perceptions ?
Oui, c'est un peu polyvalent. Déjà, je les vois de différentes manières. Ça peut être les voir comme là, je suis en train de te voir. Ça peut être... les voir de façon plus dans mon écran interne, comme si j'étais devant un écran de cinéma, mais c'est dans ma tête. Ça peut être lumineux, ça peut être juste une ombre, ça peut être juste une silhouette. Après, mes guides me parlent et je les entends, les guides des autres me parlent et je les entends. Les défunts me parlent, mais je les entends aussi, mais quand je les entends, je les vois pas. C'est quelque chose que j'ai demandé, je veux pas les voir physiquement, comme je verrais une personne... incarner et en même temps les entendre, ça me fait trop peur, donc ça j'avais demandé que ça coupe et c'est respecté. Et j'ai aussi depuis quelques temps, je peux aller dans les vies antérieures, non ça fait quand même un moment que je peux aller voir ça, mais là c'est surtout l'âme qui me parle. Souvent c'est l'âme d'une façon étoffée, comme si c'était l'âme complète de la personne avec tous ces vécus de différentes incarnations, et me dit là j'ai souffert, là j'ai fait ça, là j'aurais pas dû aller sur ce chemin. Je sais pas si pour vous ça va être clair, mais dans ma tête c'est très clair quoi. J'ai accès à une partie des vies antérieures et en même temps j'ai accès à l'âme dans sa globalité.
Ouais, c'est très clair. Oui, ce qu'on appelle nous dans notre jargon professionnel la conscience supérieure, quoi. C'est-à-dire la partie de nous qui est toujours connectée au plan céleste et qui a la compréhension, la connaissance de toute l'intelligence de tout ce qui se passe.
Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Après, j'ai les odeurs aussi. J'ai les odeurs. Souvent, c'est des odeurs de fleurs ou de cigarettes ou d'encens. Ça m'arrive aussi des plats. C'est rare, mais des odeurs de plats, je me dis « Ah tiens, ça sent ça ». Et quand je demandais à mon conjoint, il me dit « Non, ça sent rien du tout ». Tu vois, donc je sais que c'est eux qui m'envoient.
D'accord. Quand on parle de clairvoyance avec les personnes qui sont mes consultants dans les séances, il y a ceux qui n'ont pas cette clairvoyance. Il y a souvent derrière la peur de justement de voir des défunts, comment on va les voir. Tu vois, s'il y a un rapport qui est pas évident avec le fait de percevoir, de voir des défunts, comment est-ce qu'on arrive à ne pas avoir peur des différentes formes que peuvent prendre les défunts?
Bah, j'ai envie de te dire, je sais pas. Parce que moi-même, des fois, j'ai peur. Hein. Enfin, ça m'arrive, je suis chez moi, je me lève la nuit, parce que soit ma fille s'est réveillée ou quoi. Bah, des fois, je vois des choses, je vois des personnes qui sont chez moi, qui déambulent, et je me dis, mais sur le coup, t'as peur parce que tu dis, est-ce que c'est quelqu'un de réel? Enfin, de réel, d'incarné ou pas? Donc, oui, ça m'arrive d'avoir peur. Après, moi, ce que je. J'ai appris en fait que la peur, elle fait partie du cheminement. Tu vois? Moi, à chaque fois que ça m'a appelé, j'ai eu peur, mais en même temps, cette peur, elle a fait que bah, je suis sortie de cette zone de confort de me dire, bah là, il faut que j'y aille, cette voix, elle m'appelle. Les premiers contacts avec des défunts, bah j'avais peur, mais il fallait que j'y aille et la peur, enfin, je sais pas, ça me bouscule et ça me permet d'avancer. Donc, j'ai envie de te dire, bah, t'apprends à vivre avec, quoi. Elle disparaît, enfin, moi, en tout cas, elle disparaît pas vraiment.
D'accord, ça veut dire que malgré les années de pratique, quelque part, tu as toujours cette appréhension ou cette peur de ce que tu perçois.
Alors, pas forcément en rendez-vous. Là, je suis en train de cogiter, mais pas quand j'ai le rendez-vous et que le défunt vient à moi. C'est plus quand c'est des contacts qui sont pas voulus.
Ah ouais, d'accord.
Enfin, je suis dans un lieu, hop, il y a un truc qui se ramène, enfin un truc, un défunt qui vient.
Ça va faire flipper tout le monde.
Un défunt qui vient, bah, je me dis, ouf, ça... Ou alors la sensation du lieu, tu sais, de te ramener dans le lieu et tu sens la tristesse ou tu sens la colère. C'est des choses qui me font peur. Ou de me dire, je rentre dans un lieu et je visualise le lieu, comment il était avant, ce qu'on y a fait. Ça, c'est des choses, je me dis, mais waouh, comment tu peux... Comment t'arrives à voir ça? Tu sais que c'est une bibliothèque, enfin, il n'y a rien qui te montre que ça a été une bibliothèque avant.
Justement, du coup, dans ces défunts que tu peux percevoir, j'imagine qu'il y a ceux avec lesquels tu peux échanger, parce que c'est vraiment eux, entre guillemets, c'est leur énergie, et puis t'as ce qu'on appelle des mémoires, et là, qui ne sont pas forcément des choses intelligentes, mais qui sont des choses attachées à des lieux. Comment toi, tu fais la distinction entre une mémoire et un défunt avec qui tu pourrais communiquer?
Bah, le défunt, il va avoir une interaction, alors que quand c'est une mémoire, c'est en boucle. Ça me remontre la scène en boucle où la personne, elle est dans son truc, mais elle va pas t'adresser un regard. Elle va pas te calculer, elle va être dans son truc et dans sa boucle, en fait. Il y a pas d'interaction, il y a pas un jeu de regard où il y a pas « tiens, on m'a vu ». Parce que ça arrive que des fois, le défunt me voit, il voit que je l'ai vu et il part. Tu vois, par surprise, parce qu'il se dit « mince, je pensais pas qu'on allait voir que j'étais là, quoi ».
Parce que justement, j'allais te demander, tu vois, les défunts qui peuvent être chez toi, par exemple, la nuit, comme tu disais tout à l'heure, quelque part, ils sont là parce qu'ils savent que tu peux les percevoir et il y a une demande derrière, ou c'est simplement, je me balade et puis je suis là parce que j'ai vu de la lumière et je suis rentré, quoi.
Les demandes, ça arrivait très peu, et la personne que j'avais eue qui insistait, je ne l'ai pas calculée jusqu'à ce qu'elle m'envoie l'odeur de cigarette constante. Parce que moi, je n'aime pas l'odeur de cigarette. Et donc, le défunt, bah, il m'envoyait l'odeur de cigarette constante. Et là, du coup, bah, j'ai regardé pourquoi il était là. Mais quand ils sont chez moi, on vit comme si on était en cohabitation sans forcément se parler. Souvent, quand ils viennent me voir, c'est dans les rêves ou alors quand je suis dans... Et qu'ils ont une demande précise, quand je suis en état, ce que j'appelle alpha, où je suis entre le sommeil, entre le réveil et où je suis vraiment dans cet entre-deux. Et là, généralement, je fais des choses, mais... Si, mettons, je me lève la nuit et que j'en vois un, je vais pas lui dire pourquoi t'es là. Non, je fais ma vie. Hein. Tant qu'on vient rien me demander, moi, je calcule pas. Hein.
Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on est toujours entouré de plein de défunts. Enfin, il y a toujours, tu vois, dans n'importe quel lieu dans lequel on va être, dans n'importe quelle maison, et pas forcément même des maisons qui ont une histoire particulièrement importante, il y a toujours naturellement des défunts un peu partout qui se circulent autour de nous.
Oui, moi souvent en consultation, je prends l'exemple de Photoshop. Je sais pas si toi tu maîtrises un peu Photoshop, ou c'est des calques.
Je vois ce que c'est, mais
en fait, de là
à dire que je maîtrise.
Bah t'as un fond blanc, et par-dessus tu vas superposer des calques, comme ça. Et c'est ça en fait, c'est qu'on est comme si on était sur un fond blanc, et on est des calques. Nous on a un premier calque, les défenses c'est un deuxième calque, et il y a C'est plusieurs dimensions qui se superposent, en fait. Donc oui, c'est forcé qu'il y ait des défunts. Moi, les gens, ils me disent « Oui, mais est-ce que vous voyez des défunts ?» Je leur dis « Mais il y en a partout, des défunts. Vous allez faire vos courses, vous êtes sur un ancien champ ou j'en sais rien. Bah oui, il y a des défunts. À la campagne, je sais que c'est là où j'en vois vraiment plus. »
Ouais, en fait, ce qu'on dit par là aussi, c'est que ces défunts-là, dans leur perception, ils ne voient pas forcément la réalité telle que nous, on la perçoit, notre maison. Peut-être qu'ils revivent aussi dans une époque qui les a concernés et donc dans un contexte qui n'est pas du tout celui qui est le nôtre aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont dans leur boucle parce que soit ils sont décédés brutalement, soit parce qu'ils sont dans le déni, justement, qu'ils sont décédés, ou alors ils sont sur d'autres... Enfin, c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils vont venir nous embêter ou voilà. Enfin, généralement, c'est comme tu dis, ils sont dans leur truc et toi, t'existes pas pour eux, quoi.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de ne pas faire spécifiquement de contact défunt comme le font plein de médiums?
Je pense qu'il y a la peur de pas être à la hauteur parce que le peu de personnes que j'ai en consultation et qui m'ont demandé des contacts ou bien qui l'ont formulé en tout cas dans leur guidance. J'avais peur de pas être à la hauteur au niveau de la canalisation, de pas percevoir le défunt ou de pas avoir des choses intéressantes à leur dire. Mais en fait, c'est faux. Enfin, soit j'ai rien et je leur dis « le défunt, il n'est pas là, j'arrive pas à le canaliser ». Soit j'ai eu des merveilleux moments, des merveilleux contacts et où la personne elle me dit « oui, mais je suis pas sûre que c'est lui », je vais dire « montrez-moi quelque chose ». Et là, t'as le... je crois que c'est le père ou le grand-père qui montre, il me dit... J'avais une montre à gousset dans ma poche droite, je crois. Il me dit « Attention, la droite, hein, pas la gauche. » Et je dis à la personne, elle me dit « Ouais, c'est mon père. » Je crois que c'était un père ou un grand-père, mais... Tu vois, c'est le détail qui tue, quoi. Tu te dis, effectivement, il l'avait bien toujours dans cette poche-là. Et ça montre que tu peux pas te tromper. Mais du coup, ouais, je suis têtue. Je fais pas de contact défunt.
Ok. Pour en revenir à ton parcours de médiumnité... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à te lancer dans cette aventure?
Ça s'est fait un peu malgré moi, dans le sens où j'ai recommencé à tirer les cartes quand j'ai déménagé, un peu avant de déménager dans le sud. Alors ça devait être en 2018, où j'ai changé totalement de vie et où j'ai commencé à assumer, enfin entre guillemets, le fait que je tirais les cartes, donc pour moi ou pour les proches. Et un jour, j'avais oublié de ranger mon paquet de cartes parce qu'en fait, je ne laissais pas à vue chez moi. Je le mettais dans un placard et des amis de mon conjoint me disent « Mais tu tires les cartes et tout ?» Je dis « Bah ouais, ils me disent « Allez, tire-nous les cartes. » Donc je commence comme ça et il s'avère que tout ce que je dis, c'est juste. Et donc au fur et à mesure, j'avais des demandes « Tu peux nous tirer les cartes ?» Donc j'ai commencé à faire pour les proches de proches et après pour des inconnus. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit, mais vas-y. Enfin, de base, c'était pas ma volonté. On m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas ton métier? Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Aider les autres, ça me plaît, et c'est comme ça que c'est venu.
D'accord, c'est pas... tes guides qui t'ont dit, allez, maintenant, il faut se bouger, et tu vas...
Ils me l'ont sûrement dit, parce que professionnellement, ça a toujours été dans mon travail, ce que je faisais, les gens étaient contents, mais j'étais jamais prolongée. Genre, je remplaçais quelqu'un, donc c'était 3 mois. Ou le poste dans lequel j'étais, le service a fermé. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et je pouvais pas être reprolongée. Parce que finalement, je m'adaptais un peu à tous les postes que j'ai pu avoir. Et si l'univers avait pas fait que ça s'arrêtait, j'aurais pu me complaire là-dedans, tu vois. Donc oui, je pense que c'est eux qui m'ont donné un sacré coup de pied au derrière, en mode, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de t'égarer, ma grande.
C'est quoi ce que tu préfères dans cette médiumnité, justement?
Ce que je préfère, c'est qu'elle soit omniprésente. Tu vois, il y en a plein qui me disent « Mais comment tu fais pour couper ?» ou « Nanana ». J'ai pas envie de couper. Ça le fait tout seul. Quand j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas de sollicitation. C'est le fait que ça fasse partie de ma vie de tous les jours, en fait. Mais vraiment, genre, je vais me promener et je prends toujours le même chemin. Un jour, on me dit, fais demi-tour ou va à gauche. J'écoute, tu vois, bêtement. Et je vais rencontrer quelqu'un que j'avais pas vu depuis un mois. Ou je fais mes courses et on me dit, prends pas ce paquet d'oignons. Je cherche pas à comprendre pourquoi, parce que je me dis, il sera pas bon. Et puis d'avoir aussi les contacts avec les défunts, tu vois. De temps en temps, j'ai des membres de ma famille. Ça, c'est plaisant.
Ouais, d'ailleurs, on dit souvent que les médiums, ils ont du mal à... à capter les énergies des êtres qui leur sont proches. Ça veut dire que toi, tu y arrives quand même?
Oui, mais c'est bref. Tu vois, par exemple, ma grand-mère, que j'aimais profondément, elle, c'est bref. Elle va me dire trois mots et partir. Ou elle va venir me faire un signe et elle part. Elle va pas épiloguer 15 ans à me raconter sa vie, tu vois. C'est dans les moments où j'ai vraiment besoin, je sens qu'elle est là, ou je sens qu'elle met sa main sur mon épaule, ou je sens sa présence. Mais juste ça, ça me va.
Et de la même manière que je t'ai demandé ce que tu préfères dans ta médiumnité, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre?
Le plus dur à vivre, je dirais, la solitude et l'incompréhension. Parce que même si t'es entouré, même si ma famille m'épanouit pleinement, je serai jamais réellement comprise par eux, par ce que je ressens, par ce que je vois, par ce que je vis. Ouais, parfois c'est la solitude qui peut être pesant. Mais ça, ça s'amoindrit avec le fait d'être en contact avec des thérapeutes. Tu vois, le groupe de thérapeutes que je peux côtoyer, bah, je sens que je suis comprise avec eux. Je sens que quand je leur parle, bah, je leur dis bah, « moi je ressens ça », ils me disent « oui, je vois tout à fait ce que tu ressens ». Et ça, ça fait du bien.
Dans le cadre de ton activité, donc tu l'as dit, tu es entré par la porte de la cartomancie. Est-ce que c'est ce que tu continues à faire? Et est-ce que finalement cet outil, il t'est nécessaire dans le sens obligatoire pour arriver à faire des guidances? Ou est-ce que tu pourrais t'en passer aujourd'hui?
Je pourrais m'en passer. Mais si tu veux, on a tous des jours où on est mieux que d'autres, où tu sais, on a des coups de moins bien, où on canalise moins bien. Et ces cartes, ça m'aide, c'est mon support, c'est-à-dire que je les étale, soit je les touche, soit je regarde, et ça va me déclencher le fil de l'histoire, en fait. Je vais avoir des flashs, on va me dire « dis-lui ça » ou « parle-lui de ça », enfin... Mais j'en ai pas besoin, en fait. C'est plus pour moi me conforter et me dire « bah... Si tu canalises pas comme il faut ou que t'as pas les infos facilement, t'as un plan B. Parce qu'interpréter les cartes, même si je canalise pas, je peux le faire. C'est accessible à tous, en fait. Ça, tout le monde peut être cartomancien ou cartomancienne. T'as pas besoin d'avoir des perceptions extrasensorielles, quoi.
Mais justement, ça, c'est un truc intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'essayent à la cartomancie. Et moi, j'ai toujours entendu dire que dans les cartes que tu peux acheter, t'as des livrets d'explications de et puis il y a les cartomanciens qui pratiquent te disent mais non mais en fait c'est le livret à la limite t'as même pas besoin de l'ouvrir, ce qui compte c'est de te connecter à ce que te dit la carte et d'écouter ton intuition. Quel conseil du coup tu peux donner aux personnes soit qui commencent ou soit qui se posent des questions par rapport à ce sujet là?
Bah justement, ce que je dis, moi, je suis vraiment dans ce truc de le livret, oui, mais il faut s'en détacher au maximum. En fait, quand tu achètes ton jeu de cartes, regarde chaque carte, une à une, et demande-toi ce qu'elle te dit. Et fais-toi un livre ou un carnet où tu vas mettre une page par carte. Par exemple, avec l'oracle G, moi, c'est ce que je conseille, même avec d'autres oracles, hein. Par exemple, t'as une carte où c'est un coquillage, bah, qu'est-ce que ce coquillage m'indique? Est-ce que je suis attirée par la couleur bleue? Est-ce que le coquillage, ça veut dire les vacances? Et en fait, c'est à chacun de se créer son interprétation. Parce qu'à partir du moment où tu sais que cette carte, elle veut dire ça, bah, c'est bon.
Ouais, c'est si, en fait, tu te crées un code, en fait. C'est ton code à toi, et ce code, il est spécifique à chaque personne. Donc, pour toi, ça veut dire ça, peut-être qu'un autre, ça veut dire ça, mais en tout cas, tu sais que toi, si tu tires cette carte, c'est que ça te renvoie à une idée qui correspond à ton code, c'est ça?
C'est ça. Après, nous, quand on est médium et qu'on fait les cartes, le plus qu'on a, c'est qu'on a la voix, enfin, on entend, on nous guide, et moi, une carte, par exemple, cette carte du coquillage, bah, même si mon interprétation, c'est prendre de la distance ou les vacances, bah, peut-être qu'un jour, ça va pas être le coquillage qui va m'attirer sur la carte et ça va être le chiffre. Et on va me dire, bah, cette carte, ça parle d'un arrêt maladie, j'en sais rien. Et c'est pour ça que je suis pas l'exemple, je vais y arriver, à suivre. Mais sinon, non, il faut se créer sa propre interprétation et se fixer à ça. Et après, souvent, ce que je dis, c'est faites-vous ça. Et une fois que c'est fait, prenez le livret et faites... par exemple, on est sur cette même carte du coquillage, bah sur le livret, elle a une signification, et sur ton petit carnet, tu te mets trois mots-clés, justement en référence au livret, mais pas plus.
Ok. J'imagine que du coup, dans tes jeux, tu dois avoir plusieurs jeux, et que... je sais pas, tu tournes avec combien de jeux déjà?
Oula, mon pauvre ami. Je dois en avoir au moins une trentaine, je pense.
Voilà.
Mais je dirais que... J'en sors peut-être un peu moins d'une dizaine sur la table. Après, moi, j'utilise un jeu par spécificité. Après, il y a des jours où, je sais pas, je vais ressortir un jeu alors que j'en ai pas besoin d'habitude et que je l'utilise pas. Mais pour cette personne-là, je sens que c'est celui-là. T'en as, ils vont me donner les grandes lignes. D'autres, ils vont me donner la temporalité. D'autres, ils vont me donner le point de blocage. Tu vois, tu vois la table de rendez-vous. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il se dit, mais elle est complètement barge au celle-là. Parce que t'as l'impression que j'étale juste les jeux sur la table et voilà. Mais ouais, j'en ai beaucoup.
Oui, donc ça veut dire que de la même manière que tu t'es créé un code dans ton jeu, à l'intérieur de ton jeu, tu t'es aussi créé un code sur quel jeu tu vas utiliser, pour quel type de renseignement tu cherches à obtenir, c'est ça?
Après, comme je te dis, je suis pas le bon exemple, parce que d'un jour à l'autre, ça peut complètement changer. Tu vois? Mais pour des personnes qui n'ont pas de perception, c'est bien de s'en tenir à ce truc-là.
Et alors, quand tu dis, c'est intéressant que en parallèle, tu as des voix qui te parlent. Donc, mettons que tu es dans une guidance, il y a quelqu'un en face de toi, tu as ton jeu de cartes, ton œil est attiré sur telle ou telle carte, et ensuite, tu as quelqu'un qui te dit oui, c'est ça, ou il te donne un complément d'information, c'est ça?
Des fois, ils me disent non, tu te trompes, c'est pas sur cet aspect-là, c'est sur un autre. Donc, je dis à la personne, attendez, on me dit que je me trompe, donc il faut que je vois pourquoi on me dit ça. C'est comme hier, j'avais un rendez-vous et dès que j'ai parlé à la dame, on me montrait une ballerine. Et je dis, mais pourquoi je vois une ballerine dans ce truc-là? Ça n'a rien à voir. Donc je le garde en mémoire et tout. Et à un moment donné, je lui dis, mais vous aimez la danse? Parce que moi, on me montre une ballerine et la dame, elle adorait la danse. Et c'était quelque chose qu'elle allait intégrer professionnellement, tu vois. Mais soit on peut me donner des infos, me dire mot pour mot, dis-lui ça, ou parle-lui de ça, ou soit on me dit, oui, non, t'as raison, t'as pas raison, tu t'engouffres dans un truc, ne lui parle pas de ça.
Et qu'est-ce qui fait que selon toi, parfois c'est justement tu vas avoir une explication qui va être très détaillée, on va exactement, juste à répéter ce qu'on va te dire, et parfois on te dit juste oui, non, ou on te dit rien du tout.
Alors moi j'ai remarqué que ça dépendait quand j'ai des gens qui ont énormément d'attentes, généralement c'est là où j'ai le moins d'infos. Souvent je leur dis mais n'ayez pas d'attentes parce que quand vous avez des attentes ça bloque, et parfois il y a des personnes où tu vas leur dire précisément bah vous allez rencontrer quelqu'un à cette période-là. Du coup, du moment où tu leur dis ça jusqu'à la période, ils vont être dans ce truc, bah, elle m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un à cette période-là, et ils sont dans ce truc-là de focaliser sur ça, ils empêchent en fait le cheminement de se faire. Donc c'est pour ça, il y a des personnes où on leur donne pas trop d'infos. Il y a des fois, on me montre tout le plein de trucs, on me dit, mais tu lui dis pas, dis-lui juste que ça va le faire, que ça va aller, qu'il y aura des bouleversements dans sa vie, mais lui dis pas quoi. Ça peut être une rencontre amoureuse, moi je la vois, et à la personne, je lui dis pas. Sinon, elle va être focalisée sur ce truc-là, alors qu'il ne faut pas.
Et ouais, c'est d'ailleurs toute la difficulté de cet exercice quand on fait du prédictif, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne. Il y a plein de lignes de temps. Et ce que tu vas capter, toi, c'est la ligne du temps de l'énergie de la personne le jour où tu fais cette guidance. Mais potentiellement, le lendemain, elle est dans une autre énergie, ça active une autre ligne de temps. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui... font cet exercice d'aller voir quelqu'un qui va faire du prédictif sur la manière de recevoir les informations que tu vas lui donner.
Alors moi déjà, je leur conseille d'écrire ou d'enregistrer tout ce que je dis. Et c'est pour ça que quand ils notent, je leur dis surtout, n'hésitez pas à me faire répéter, parce qu'il y a des mots que j'emploie qui sont très importants. Aujourd'hui, ça vous parle pas, mais demain, ça aura une signification très importante. Après, généralement, quand je donne des dates, normalement, on tape dans le mille, ou alors c'est très proche. Et quand on me dit que c'est modulable parce que en fonction de la personne et de son avancée, on me le dit. Donc je dis à la personne, attention, là je suis en train de vous dire mois de mai, mais si demain vous mettez les pieds sous la table et que vous faites rien, c'est pas le mois de mai, ça sera l'année prochaine. Donc on me le montre, et souvent ce que je dis c'est que ma vérité, c'est mon ressenti, et que leur ressenti doit toujours prédominer sur le mien. C'est-à-dire que si je leur dis un truc et que ça leur parle pas, bah qu'ils prennent pas. Je vais pas dire, bah voilà, ça sera à telle période et puis c'est tout. Et puis surtout, je leur dis, voilà, la temporalité, c'est compliqué. Là, on fait la séance, c'est comme si on prenait la photo d'un animal. Bah, tu l'as sur la photo, l'instant d'après, il est parti. Donc, demain, elles reviennent. Enfin, demain, non, parce que généralement, dans les 3 semaines, 1 mois, quand je retire les cartes, c'est exactement les mêmes qui tombent. Mais d'un mois à l'autre, ça peut varier en fonction des choix de la personne, en fonction du contexte, des énergies qui l'entourent. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais généralement, au niveau de temporalité, j'aurais tendance à dire que je tape pas trop loin de la bonne date, quoi. Voir le mois... Après, je donne des mois ou alors des... Soit je leur dis c'est tel mois, soit je leur dis c'est une période de temps à temps. Mais généralement, mes guidances, c'est dans les 6 mois, 1 an. C'est rare que j'ai des informations sur les 2-5 ans, ou alors, encore une fois, on me le précise. On me dit, là, t'es en train de lui dire ça, bah, c'est pour dans 2 ans.
Ok, selon toi, du coup, ça me fait me poser la question du libre-arbitre. Tu sais, chacun a un peu sa vision de la part de libre-arbitre qu'on peut avoir dans une incarnation. Jusqu'à quel point, selon ton expérience, les choses sont déjà organisées d'avance, quoi.
Bah, c'est marrant que tu me donnes ça, parce que depuis quelques mois, maintenant, les guides, ils me disent, bah là, tu vois, pour son libre-arbitre professionnel, il n'a pas de marge de manœuvre. Il aura beau faire ce qu'il veut, c'est écrit comme ça, donc il ira vers ça. Autant au niveau du sentimental, on va me dire, bah là, c'est 50-50. Soit il prend cette voie-là et il se passe ça, soit il prend cette voie-là et il se passe ça. Mais on me dit la marge, en fait. On n'a pas tous le même libre-arbitre pour les mêmes domaines. Et là, au moment où je te dis ça, j'ai vraiment la chair de poule, donc pour moi, ça valide. Tu vois, peut-être ton libre-arbitre professionnel, bah, t'auras une marge de manœuvre de 100% et moi, j'aurai que 20%, tu vois. Ça dépend de chacun.
Ouais, ouais. Mais c'est, du coup, je suis content de t'entendre dire ça parce que ça correspond à ma croyance du moment, en tout cas. Parce que j'ai la sensation qu'en fait, c'est comme si, avant de s'incarner, on va se paramétrer une sorte de pourcentage de libre-arbitre selon les domaines de notre vie, ou, etc. Et, enfin, les différents sujets. Et ça peut varier énormément d'une personne à une autre, en fait. C'est comme si, d'un point de vue de l'âme, on se disait, bah là, ces expériences-là, de toute façon, je suis venu pour les vivre et il n'y aura pas moyen que je fasse autrement que de les vivre. Donc, je ne pourrais pas y couper. Et il y a d'autres expériences, bah là, finalement, ça sera un petit peu au ressenti, selon comment je réagis à certaines autres expériences, j'irai ou j'irai pas les vivre, quoi.
Mais c'est exactement ça, au moment où tu parles, en fait, on me montre comme une liste. On me dit, on a fait des priorités. Donc, c'est pour ça que bah, les choses prioritaires, t'auras moins de marge de manœuvre. Mettons, t'es venu vivre le rejet, c'est vraiment pour ça que tu t'incarnes. Donc, ça, ton libre arbitre sera moins important. Ouais, c'est ce qu'on me montre.
Toi, t'as la connaissance pour toi-même comme ça, de ce qui est de l'ordre du libre arbitre et ce qui est de l'ordre de, justement, de. Enfin, de toute façon, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix.
Bah moi, j'ai toujours fonctionné au feeling, mais pour être honnête, en fait, avant, je percevais très très bien pour moi. Et si tu veux, je tirais les cartes parce qu'à une période, j'avais vraiment ce désir d'enfant. Et on me disait, arrête de tirer les cartes. Et j'ai tiré les cartes. Et en fait, ça m'a annoncé que j'allais avoir des jumeaux et que j'allais les perdre, que j'allais faire une fausse couche. Je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Et on m'a dit, bah, tu vois là, ce que t'as fait, c'est pas bien, on te coupe, en fait. Et donc, ça s'est réellement passé. J'ai vraiment eu fait cette grossesse gémellaire et je les ai perdues. Et en fait, maintenant, quand je me tire les cartes sur des choses très importantes où j'ai vraiment besoin d'une réponse, c'est comme si je savais lire, que j'essayais de lire un livre, mais que toutes les lettres se mélangent. Donc, c'est-à-dire que ma carte, qui habituellement est super claire pour moi et où j'ai l'info, bah, je suis incapable de la lire.
D'accord, comme si on t'avait dit, allez, hop, pour tout ce qui te concerne et qui est super important pour toi, on va te couper cette capacité à savoir parce que tu n'es pas en mesure de l'intégrer comme il faut derrière, quoi.
Puis surtout, on me dit, en fait, tu penses savoir, mais tu passes à côté de choses. C'est comme si je me mettais des œillères, tu vois. Et on me dit, bah, du coup, tu passes à côté de l'information importante. Donc maintenant, quand c'est pour moi... Souvent, on me donne l'info ou on me montre, mais il faut pas que je tire les cartes. Si je dois la voir, j'aurai l'info, mais il faut pas que j'aille la chercher.
Parce que j'allais te dire que bah, quand on fait ce métier, peut-être que la tentation, c'est d'être tout le temps en train d'essayer de comprendre ce qui va nous arriver ou ce qui va arriver à nos proches. Ou, tu vois, comment on se prémunit de ça?
Moi, je cherche pas forcément à comprendre, mais j'ai toujours cette anticipation. Et ça peut être compliqué à vivre pour les proches... de dire, bah, tu sais, je sens que tel moment, je vais déménager, ou tel moment, je vais faire ça, ou je vais changer professionnellement aussi. Bah, tu sais, je suis toujours dans ce coup d'avance. Je suis pas dans le moment présent. Et ça peut être frustrant pour les gens, parce que du coup, tu sais, t'anticipes. Enfin, moi, je vois mon conjoint, il veut plus que je lui dise. Il veut plus que je lui dise, il en a marre. Parce qu'à chaque fois, il voit que j'ai raison. Des trucs, mais tu te dis, mais c'est improbable que ça arrive, et ça arrive. Donc, il m'a dit, ne me dis plus rien. Je veux plus savoir. Alors que moi, au contraire, j'aimerais anticiper, me dire, bah voilà, à ce moment-là, je vais déménager, donc là, à ce moment-là, il faut que je me prépare à faire ça. Et on me dit, mais attends, t'es pas dans ce mood-là, t'as pas trouvé de maison, mais moi, je suis déjà dans mon déménagement, tu vois. Je sens ce qui va arriver, donc c'est dur quand même de le garder pour soi, tu sais, quand tu sens qu'il y a des bons trucs qui vont t'arriver. Mais bon, ouais, c'est un peu difficile ce point-là.
Tu disais tout à l'heure qu'il y a, il y a aussi des éléments, des informations qui t'arrivent en rêve. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que quand on est ouvert, quand on a toutes ces perceptions-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi, en plus, d'aller nous mettre, nous donner de l'information en rêve ?
Bah parce que c'est des choses que tu occultes ou tu sais, t'es tellement... Enfin, moi, je vois au niveau du quotidien, bah, je pense que tout parent a un quotidien chargé, quoi. T'es tellement dans ton truc que tu vas moins méditer ou tu vas moins faire attention aux choses que tu devrais mettre en place. Et bah, du coup, ils se disent, bah tiens, elle veut pas entendre, elle est tellement dans son truc, bah on va lui mettre ça dans ses rêves et voilà.
D'accord. Et donc, ça se manifeste comment pour toi ? Comment tu reçois les informations ?
Enfin, souvent... Alors attention, parce qu'il y a les rêves où je me souviens, et c'est des trucs importants, mais ça va, c'est pas trop important. Enfin, je veux dire, si j'avais pas eu l'info, c'était pas non plus grave. Mais les rêves où j'ai les informations les plus importantes, je me souviens pas. Je vais me souvenir le matin, je vais me dire, au moment où je pose le pied au sol, je me dis, oh là là, ça c'était hyper important, et après c'est fini. Si je note pas, c'est fini. Et là, je sais que c'était hyper important, mais on me dit, c'est pas grave. Enfin, mes guides me disent, c'est pas grave, parce que finalement, l'inconscient a eu l'information. Et donc, c'est gravé. Donc, par exemple, on me dit, attention, ça peut être attention, à ce moment-là, tu vas avoir un choix indéterminant à faire, ne va pas dans cette voie-là. Et bah, c'est pas grave si je m'en souviens pas aujourd'hui, parce que mon âme, elle sait. Je sais pas si c'est clair pour toi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une autre partie de toi qui est inconsciente, qui sait et qui, de toute façon, va te protéger d'aller dans telle direction si c'est pas la direction dans laquelle tu dois aller, quoi.
C'est ça. Mais souvent, les choses dont je me suis pas souvenue sur le moment, ça me vient en flash plus tard. Soit dans la journée, soit dans les jours qui suivent. Je me dis, ah mais oui, en fait, c'était ça. Mais sur le moment, je me rappelle plus.
Ouais. Tu parlais, tu as beaucoup parlé de tes guides et de la manière dont ils venaient te parler. Et tout à l'heure, quand tu parlais de visualisation, tu nous as parlé des défunts, mais tu n'as pas parlé des guides. Est-ce que les guides, tu les visualises ou est-ce que c'est simplement une voix ?
Non, je les visualise. Alors, soit ils peuvent être forme humaine, mais ce que j'ai appris, c'est que les guides, moi, je peux percevoir ton guide, toi aussi, tu peux le percevoir, mais tu vas pas le voir forcément de la même façon que moi. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai un guide qui, vibratoirement, énergétiquement, qui est très haut en vibration, et moi, je le vois comme un enfant, parce que pour moi, l'enfant, c'est pur, c'est naïf, hein, voilà, quoi, j'ai... Et puis souvent dans les contacts défunts, j'ai souvent les enfants. Donc je pense que moi, dans ma façon d'être, j'ai ces vibrations-là. Mais toi, par exemple, ce guide, tu pourrais le percevoir comme un homme adulte.
Oui, c'est-à-dire qu'à nouveau, en fait, c'est une question de... Ça reprend tes codes à toi, ce qui est important pour toi. Et c'est filtré à travers tes croyances ou tes codes, quoi. C'est ça ?
C'est ça. Comme quand on a des contacts défunts en salle... Bah, le défunt à côté peut voir une femme à 20 ans et moi la même femme à 80 ans. Parce qu'au niveau de notre façon de percevoir, on va avoir les messages peut-être plus pertinents au niveau de l'âge à laquelle on la voit.
D'accord, parce que ça c'est un point intéressant. Jusqu'à présent, moi j'avais en tête que c'était les défunts qui se présentaient à l'âge qu'ils souhaitaient. Parce que, mettons, je sais pas, un défunt qui est mort à 80 ans, il estime que c'est à 40 ans qu'il a passé... la meilleure période de sa vie, donc il va se présenter naturellement à l'âge de 40 ans. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est aussi dépendant du médium à qui il va s'adresser, c'est ça ?
Ouais, mais souvent, j'ai les gens à l'âge où ils se sentaient le mieux. Hein. Mais ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, une dame, je l'ai à 80 ans, je dis 80, mais ça pourrait être autre chose. Elle me donne son message et ensuite, je la vois à l'âge où elle se trouvait bien. Tu vois ? Visuellement, elle rajeunit. Donc je pense que ça, franchement, je pense que ça dépend de chaque médium.
C'est intéressant. Et donc, tes guides, quand ils te parlent, c'est une voix extérieure ou une voix, ta voix mentale, en fait ?
En fait, tu vois, quand tu lis un livre, t'as une voix dans ta tête. Quand tu lis ton livre sans parler, bah, c'est un peu ça, mais sauf que c'est la tonalité d'une autre voix. Comme si je pouvais avoir ta voix dans ma tête ou mes guides, ils ont leur propre voix. Après, souvent, mes guides, c'est par télépathie. C'est rare, très rare, que j'ai les sons. Tu vois, c'est rare. Enfin, ça dépend. Ça dépend. J'aurais pas de règles définies à te dire, mais je les ai plus souvent en télépathie que par voix. Mais sinon, c'est une petite voix intérieure. Mais
donc,
avec...
quand tu dis que c'est en télépathie, c'est-à-dire que tu le sais. C'est ça, c'est ce qu'on appelle de la clair-connaissance. C'est-à-dire que tu sais pas comment tu sais, mais tu le sais.
Oui, mais c'est de la télépathie, mais c'est comme si c'était sa voix. Enfin, c'est très bizarre à expliquer.
Oui, on ne comprend pas.
Déjà, quand tu lis un livre dans ta tête, tu as ta voix.
Ouais, voilà. Ça oui.
Donc, bah, c'est pareil pour les guides, sauf qu'au lieu que ça soit ma propre voix, c'est la leur.
Donc, c'est tu entends une voix dans ta tête, mais la voix, elle a une tonalité, elle a une... ouais, c'est ça, une tonalité différente.
Voilà, en fonction des guides, ça ne va pas être la même. Ils ne vont pas avoir le même vocabulaire. Il y en a qui sont très cash ou joueurs ou dans les blagueurs, et d'autres qui sont très froids ou vraiment ils viennent et ils disent « Voilà, moi je suis venu pour dire ça, mon message est dit, je repars. » Alors que tu en as là, ils rigolent, ils disent « Ah, c'est bien ce que tu dis » ou « Dis-lui ça, ça va la faire rire, tu vois. » Mais sinon, c'est par télépathie. C'est comme si il est en face de moi, il me regarde, il me donne l'info, je sais qu'il m'a parlé, mais ses lèvres n'ont pas bougé. C'est pour quelqu'un qui ne le vit pas, je pense que c'est difficile à comprendre. J'ai l'impression d'être folle.
Non, en fait, moi, quand... Mais je pense, là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'on soulève un point qui est très, là encore, adapté à chaque personne et à la sensibilité de chaque personne. Parce que moi, en l'occurrence, quand ça se passe, bon, ça se passe pas tout le temps, mais quand ça se passe, j'ai la sensation qu'avant même que j'ai posé une question ou que je me sois posé la question, il y a une sorte d'évidence qui m'arrive et j'ai la réponse.
Oui, moi, ça me le fait aussi.
Et je sais que ça, ça peut pas être moi, quoi. Ou même parfois, on m'envoie des mots que je ne comprends pas. Et ça, pour le coup, bon, par définition, je peux pas l'inventer. Mais j'ai pas cette notion de, tu vois, de tonalité différente. Ça, c'est ma voix, c'est comme si je lisais un livre. Par contre, ça fuse, en fait. Ça vient, la rapidité à laquelle ça vient et fait que ça peut pas être ma voix mentale. Ma voix mentale, elle vient en deuxième lame, en fait.
Mais c'est là que tu vois que c'est de la canalisation, parce que souvent je dis en rendez-vous, les gens, je leur dis, vous prenez de quoi noter? Ils me disent, oui, j'ai pris une feuille. Je dis, non, prenez-en plusieurs. Parce que quand je canalise, ma voix, c'est blablabla. Enfin, et tu vois que c'est évident, c'est canalisé, parce que j'ai pas le temps de réfléchir au truc que j'ai déjà les informations d'après. Et ça m'arrive des fois de dire au guide, attendez, parce que là, il y a trop de trucs d'un coup, j'arrive pas à retranscrire. Donc oui, le fait que tu canalises et que ça soit fulgurant, bah pour moi, ça montre que tu peux pas douter de l'info, quoi.
Ouais, d'accord. Et alors, ces guides avec lesquels tu collabores, est-ce que tu sais la raison qui font que c'est eux comme guides? Par exemple, tu disais que tu avais un guide qui avait une vibration assez élevée. Pourquoi un guide? En quoi c'est important pour toi d'avoir un guide avec cette fréquence-là pour ton parcours?
Bah alors, je sais pas. Je t'avoue que je vais pas. Non, je suis pas curieuse, moi, souvent, parce que. Bah, souvent, quand j'ai fait les émissions avec Philippe Ferret, il me dit, mais t'as pas posé la question? Je dis, mais non, en fait, moi, je prends ce qui vient et si ça vient, bah, j'ai l'info. Si ça vient pas, bah, c'est que je devais pas l'avoir. Mais lui, non, j'ai pas cherché. Enfin, pour moi, il est là. On se connaît, on s'apprécie et on doit cheminer ensemble, mais j'ai pas cherché à savoir pourquoi lui, il était là. Je sais que lui, il agit beaucoup par rapport au contact défunt et, tu sais, à faire un peu barrière pour filtrer les mauvaises choses, enfin, les vibrations basses, ces genres de choses. Je sais que je suis très protégée par mes guides, et au moment où je te dis ça, j'ai vraiment la chair de poule dans tout le corps. Je sais que je suis très protégée et que lui, il fait partie de ceux vraiment qui bah, ont une marge de manœuvre importante. Parce que pour moi, je dis mes guides, mais dans l'eau, il y a des protecteurs et c'est pour moi les membres de la famille, ces personnes-là. Donc, ils n'ont pas le même. La même marge de manœuvre, si tu veux, qu'une personne que de ta famille que tu as connue, comme ma grand-mère, et qui vient me voir et qui vient bah, me dire des choses, elle n'aura pas le même impact sur ma vie, tu vois.
Ouais, ce que tu dis, c'est qu'en clair, bon, dans le lot des énergies qui peuvent nous accompagner, il y a des guides qui ont une vibration logiquement plus élevée, des défunts accompagnants, que tu appelles des protecteurs, qui, eux, en fait, ont un champ d'action plus limité parce que leur vibration est plus limitée, leur fréquence vibratoire est plus limitée. Mais, par exemple, quand tu vas communiquer, enfin, faire des contacts défunts, tu as besoin de quelqu'un, d'une énergie qui est haute en vibration pour filtrer correctement les énergies que tu vas pouvoir canaliser. Et alors que ce ne serait pas la possibilité d'un défunt accompagnant, par exemple.
Oui, je pense qu'ils ont chacun leur rôle et qu'ils sont très, très complémentaires. Après, dans les protecteurs, tu as aussi les animaux. Moi, je sais que jusqu'à présent, j'avais un chat. Bon, maintenant, il est parti. Il m'a dit qu'il allait se réincarner et j'en ai été mais bouleversée. Mais les chats, les animaux, peuvent faire partie des protecteurs.
Mais alors, du coup, c'est intéressant. Quand tu as un animal qui est un de tes protecteurs, comment lui, quelle capacité d'action il a sur toi?
Moi, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il observait le déroulement de ma vie et qu'il avait la possibilité d'interagir. Il m'a pas dit à quel niveau, mais je sais que je le sentais souvent dans les phases où tu sais, j'avais besoin de réconfort, où j'avais besoin de... Bah, comme un animal peut le faire, comme un chat peut le faire de son vivant quand il vient se blottir contre toi et qu'il ronronne, tu vois. Mais c'est pour moi, son âme, elle était aussi puissante en termes d'action que celle de ma grand-mère, par exemple.
D'accord, c'est-à-dire qu'en clair, tu as un coup de mou, et bien de la même manière qu'un chat incarné va venir se coller à toi parce qu'il sent que ça va pas et que du coup, tu as besoin de réconfort, et bien en fait, tu vas sentir, tu vas sentir, je sais pas comment le dire, qu'il y a quelque chose qui t'apporte du réconfort, et ce réconfort, c'est cette énergie, c'est ça?
Oui, puis il me parlait vraiment... Là, te dire ce qu'il m'a dit les fois où il est venu, bah, je m'en rappelle plus parce que c'est quelque chose quand même qui date. Hein, et ça fait un moment qu'il m'a dit qu'il allait s'incarner. Mais je sais que, par exemple, pour le peu de contact voulu que j'ai fait avec des animaux, tu sais, des communications animales, il était là. Tu sais, il venait pour style le rassurer, le chien ou le chat.
Et de la même manière, alors les défunts qui t'accompagnent, eux, est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Est-ce que chaque défunt, mettons que, je sais pas, tes 5 défunts compagnons, allez, est-ce que tu vas avoir 5 défunts qui auront un rôle particulier et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir un rôle plutôt qu'un autre?
Moi, je pense que bah, c'est aussi en lien avec la relation que j'ai eue avec eux. Parce que tu vois, mon grand-père maternel, je ne l'ai jamais connu, il est décédé avant que je... J'allais dire avant que je meure, mais non, avant que je naisse.
L'abscisse de médium.
Ouais, mais c'est pour ça que je le dis, je sais pas, ça m'est venu. Et lui, je l'ai, mais ça va être des conversations très rationnelles, très concrètes. C'est vraiment des questionnements précis où je vais avoir besoin d'informations tranchées. Parce qu'il n'y a pas cet affectif... Enfin, j'ai toujours voulu le connaître et j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir connu. Mais il n'y a pas le vécu et les souvenirs, tu vois. Alors que ma grand-mère, ça va être plus dans les moments où j'ai perdu mes bébés, par exemple. Elle était très présente et ce qu'elle m'a montré, c'est qu'elle s'en occupe de l'autre côté, par exemple. Quand je peux les revoir, elle est avec eux. Qu'on me les montre et quand je les vois grandir, elle est avec eux. Après, elle a ses missions aussi parce qu'elle avait pas mal de choses à travailler sur elle-même et donc du coup, elle n'était pas forcément dispo. Mais ça va être plus du réconfort comme bah, une grand-mère le ferait avec sa petite fille, quoi. Et pourtant, elle n'était pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Il y avait vraiment une froideur, une distance et pour autant, depuis qu'elle est passée de l'autre côté, elle est changée à ce niveau-là.
D'accord. Ah oui, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une différence entre la personnalité des défunts qu'on a connus, enfin des personnes qui étaient incarnées et qu'on a connues qui sont défunts, et leur manière de t'accompagner.
Ah bah complètement, parce que finalement, en passant de l'autre côté, ils comprennent, ils prennent conscience de... Ils n'ont plus la même attitude, c'est-à-dire ils ne sont plus dans leur vie. Ils ont la pleine conscience de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont pu dire, faire. Et elle est beaucoup plus démonstrative avec moi, en étant de l'autre côté que quand elle était incarnée. Mais pour autant, elle emploie les mêmes mots, tu vois. Elle avait une façon de m'appeler, de me parler, c'est les mêmes mots qu'elle emploie. Que ça soit avec moi ou avec d'autres médiums.
Ouais, on pourrait imaginer que quelque part, c'est une manière pour elle, en tant que défunte, de, j'allais pas dire de réparer, mais tu vois, t'apporter un soutien ou un réconfort ou un amour, une affection qu'elle n'a pas forcément pu t'apporter de son vivant. Et donc, une fois qu'elle l'a compris, elle te l'apporte. Et c'est une manière de rééquilibrer un peu le truc, quoi, non?
Oui, mais après, de ce que j'ai compris, on a quand même plusieurs incarnations ensemble. Et je pense que du coup, bah, y a le relationnel qu'elle a pu avoir avec moi dans cette vie-là, parce que c'était comme ça et ça devait se passer comme ça. Et il y a aussi le lien d'âme, plus complet, plus étoffé. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, avec la conscience, tu me parlais de conscience supérieure, bah c'est ça. C'est qu'elle est... Oui, c'est ma grand-mère, mais en même temps, de l'autre côté, son âme a récupéré des bouts, enfin, pour être plus étoffée, et donc sa compréhension et ses actions sont différentes.
Et toi, par exemple, dans ta médiumnité, tu arrives à savoir, sur les personnes que tu vas rencontrer, avoir une lecture, je dirais, de tout ce qu'ils ont pu faire dans d'autres vies avec d'autres personnes. Je sais pas, par exemple, si tu as une personne qui a des problèmes relationnels avec son conjoint, tu vas pouvoir savoir qu'en fait, ça fait écho à d'autres vies dans lesquelles il s'est passé tel ou tel truc, etc.
Ça, c'est possible. Aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'accompagnement que je fais maintenant, c'est vraiment aller déterminer le blocage ou le choc émotionnel ou la mémoire bloquante pour la personne, pour l'aider à surpasser ça. Par exemple, une personne qui va me dire « j'ai que des relations sentimentales toxiques » ou « au travail, je tombe toujours sur des patrons exécrables » ou « j'arrive pas à vendre ma maison, à chaque fois que j'ai une maison, j'arrive pas à la vendre ». Et ben moi, je vais aller voir pourquoi cette situation. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est en lien avec les vies antérieures? Si oui, laquelle? Ou lesquelles? Parce que souvent, on me dit, attention, là, cette vie antérieure, c'est la troisième où elle essaye de travailler là-dessus. Donc là, faut qu'elle se fasse un peu violence, tu vois. Ça peut être en lien avec le transgénérationnel, ça peut être l'enfance ou lors de la grossesse. Ça peut être à la vie d'adulte, ça peut être... les intentions des autres par la négativité, ou ça peut être même le mauvais œil ou ces trucs-là. Bon, moi, je le sens, mais c'est pas quelque chose que j'ai très souvent. Enfin, il y a plein de causes, en fait, et on me dit, OK, c'est cette cause-là, et aujourd'hui, dans sa vie, ça se répercute par j'ai peur de m'affirmer, ou j'auto-sabote ma relation, ou le pardon envers moi-même, j'arrive pas à me l'accorder. Enfin, ça me donne le pourquoi, les conséquences, et comment les travailler. Elle, faut que je l'oriente vers un thérapeute, qui est spécialisée dans ça, elle, ça va être plus quelque chose de personnel. Enfin, voilà. Et ça, c'est ce que j'adore dans mes rendez-vous.
Et ouais, c'est passionnant, justement. Parlons de ce que tu proposes comme prestation. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'articule un rendez-vous avec toi et du coup, quel type de prestation tu proposes?
Là, ce que je fais le plus souvent, c'est en fait des guidances. Donc, comme je te dis, où je m'adapte soit au questionnement de la personne, soit où je fais la libération des blocages. Alors, attention, libération des blocages, c'est pas moi qui vais faire tout le boulot, hein. Je détermine quel est le point de blocage, les conséquences, et j'oriente la personne. Après, si moi je peux faire quelque chose, je le fais, mais souvent il y a besoin d'autres thérapeutes en complément ou dont c'est la spécificité. Donc je vais orienter les personnes. Donc je fais des guidances par rapport à leurs problématiques ou des blocages émotionnels, et je propose plusieurs durées. Une demi-heure pour les gens qui n'ont pas des gros budgets ou qui ont une ou deux questions, 1 heure ou 1h20, je crois. 1h20, ouais.
Ok, très bien. Bah, écoute, je vais te remercier infiniment pour ce temps précieux passé avec tous les auditeurs du podcast. Avant de terminer, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est est-ce que toi, dans ton parcours de médiumnité, il y a eu des livres ou des inspirations particulières qui t'ont aidé à cheminer?
Oui, alors il y en a un que j'ai lu pendant ma grossesse et qui parle justement de l'incarnation d'une âme dans un fœtus, et qui est formidable. Franchement, ça te permet d'avoir des éclairages, et ce qui est marrant, c'est que ce qui est dit dans le livre, à chaque fois je le vivais, et ensuite je lisais le chapitre sur l'événement en question. Donc c'était vraiment, je trouve formidable. Ça s'appelle Les 9 marches. Alors c'est une personne qui s'appelle Anne.
J'y vais autant.
Mais je sais, c'est elle. Ok, parce que je sais jamais, et il est formidable. Tu l'as déjà lu, ce livre ?
Oui, j'ai fait un épisode concernant justement l'incarnation et le préparation de l'incarnation pour un fœtus, et donc inspiré de ce bouquin.
Ouais, mais c'est formidable. Et ensuite, un livre qui m'aide et qui m'a aidé, qui travaille sur la mémoire cellulaire, justement, et souvent je le recommande en rendez-vous quand les personnes, je sens qu'elles sont... ouverte et que ça va les aider. Ça s'appelle Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques, et c'est écrit par Stéphanie Abelan. Chaque chapitre travaille une mémoire ou une blessure, et donc il y a un soin qui est fait automatiquement quand la personne lit. Il y a juste à lire, c'est tout. Pas plus.
Ok, bon, ça va, ça, c'est un beau programme, belle promesse. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est pour les personnes qui s'éveillent à tout ce monde de la spiritualité, alors c'est assez complexe parfois parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de choses potentielles vers lesquelles on peut se diriger. Toi, quel serait ton conseil pour aborder le plus sereinement possible cette transition?
Je dirais de prendre les choses avec légèreté. Parce que j'ai des personnes qui me disent « Oui, moi, j'arrive pas à méditer tous les jours, ou j'arrive pas à mettre cette rigueur. » Non, tranquille. Si t'as pas médité depuis un mois, c'est pas grave. Hein. Donc, mettre cette légèreté et de faire les choses comme on le ressent. Si votre ressenti vous dit que la pratique que vous êtes en train de faire vous convient pas, faut tout stopper. Enfin, faut vraiment s'écouter et mettre de la légèreté dans. À partir du moment où c'est une contrainte et où tu te dis j'ai pas envie de le faire ou c'est trop, ça me demande trop de temps, c'est pas juste. Voilà.
Super. Eh bien, encore une fois, un grand merci à toi pour ce moment. Et évidemment, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.
Merci à toi, Xavier.